Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Salut la team podcast, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, vous le savez maintenant, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du marketing, des réseaux sociaux et plus. Alors aujourd'hui, je suis avec Ken. Je vous préviens, cet épisode est un peu spécial car aujourd'hui, c'est moi qui vais me faire donner une leçon. Une leçon sur comment utiliser au mieux YouTube pour faire connaître sa marque. Certains d'entre vous le savent, je viens de lancer une chaîne YouTube que vous trouverez d'ailleurs dans le descriptif de cet épisode pour diffuser le podcast. Et plus tard, je vais d'ailleurs y ajouter d'autres contenus exclusifs. Pourquoi avoir choisi de faire ça? Pas juste pour avoir plus de travail, je vous rassure, j'en ai déjà assez. En fait, j'ai fait ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que certaines personnes préfèrent utiliser YouTube sur leur ordinateur pendant les heures de travail pour écouter des podcasts. Pourquoi pas? Aussi, deuxièmement, car j'ai pour ambition, à terme, de filmer mes interviews et de pouvoir diffuser ces contenus en vidéo autant qu'en audio. Troisièmement, car YouTube est une plateforme de contenu très intéressante qui privilégie le search, donc la recherche, c'est-à-dire des requêtes par des internautes. Or, avec les leçons du gratin, je réponds justement à des recherches fréquentes comme comment augmenter son audience sur Instagram ou comme aujourd'hui, comment créer une chaîne YouTube. Bref, cette chaîne, vous l'aurez compris, est une bonne optimisation de mon référencement naturel et me permettra, je l'espère, de faire bénéficier de ces contenus à un public encore beaucoup plus large qu'avec le seul podcast. Mais comme YouTube, j'y connaissais pas grand-chose, avant de décider de me lancer, eh bien j'ai voulu demander à un pro quelles sont les ficelles du métier. Je suis donc allée chercher Ken de l'agence TubeReach, qui est une agence vraiment spécialisée sur la création et la diffusion de contenu YouTube. Concrètement, ils sont là pour vous faire exploser votre chaîne YouTube. Vous retrouverez le lien vers l'agence TubeReach en lien dans le descriptif de l'épisode et aussi sur le blog du podcast. Concrètement, j'ai choisi de poser des questions vraiment concrètes à Ken sur comment et pourquoi lancer une chaîne YouTube, quel contenu diffuser, à quelle fréquence, la durée des vidéos, le matériel nécessaire, ce qui coûte cher, etc. Alors évidemment, cet épisode ne plaira pas à tout le monde car il est un peu plus technique que la moyenne, mais quand on y pense, en 2017, déjà 37,5 millions de Français allaient sur YouTube chaque mois, soit 80% de la population connectée. Donc on peut raisonnablement se dire que YouTube est un bon terrain de jeu marketing et en tout cas qu'il faut un minimum s'y intéresser. Si vous voulez contacter Ken pour lui poser plus de questions, vous pouvez le retrouver sur le site de TubeReach bien sûr, donc tubereach.com, et également via son compte Twitter, @callmekentan, donc call me ensuite Ken, K-E-N, Tan, T-A-N. Allez go, c'est parti pour la leçon du gratin. Salut Ken, bienvenue sur Le Gratin.
Bonjour Pauline.
Écoute, je suis ravie de te recevoir, c'est un épisode un peu spécial en plus, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de YouTube, puisque tu es vraiment expert en la matière. J'y connais pas grand chose et donc je me suis dit que j'allais te poser plein de questions. J'ai aussi plein de questions de mon audience, parce que j'avais posté des messages sur Instagram et Twitter pour leur demander quelles étaient leurs problématiques. Et donc l'idée ici, c'est vraiment une leçon sur comment utiliser YouTube pour faire connaître sa marque, soit personnelle si jamais vous êtes influenceur, soit sa marque si jamais vous êtes créateur d'une entreprise, B2B ou B2C. Et donc je t'ai préparé une petite liste de questions qui va un peu dans tous les sens, mais si je commence par le début, la base on va dire, ma première question c'est est-ce que toutes les marques, qu'elles soient B2B ou B2C, ont intérêt à créer une chaîne YouTube et à poster des contenus dessus? Et quel est l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube au fond?
Alors, c'est une bonne question. C'est même peut-être la première question à se poser. En fait, en parlant avec nos clients, on a souvent cette idée reçue, cette idée préconçue qui est YouTube, est-ce que c'est pas une plateforme de jeunes? Il y a
Ouais,
beaucoup de
c'est ça.
YouTubeurs, d'humour. Moi, je suis une marque qui fait des produits B2C. J'ai, je sais pas moi, un robot, une voiture, n'importe quoi à vendre. Qu'est-ce que j'irais faire sur YouTube? En fait, la réponse qu'on a, c'est toujours de se mettre à la peau de son, dans la peau de son audience, pardon,
Ouais.
dès lors que, il existe des contenus qui fonctionnent sur vos thématiques, et c'est le cas de la grande majorité des secteurs, que ce soit évidemment dans la grande distribution jusqu'au cosmétique, en passant par même certains secteurs B2B, dès lors qu'il va exister des contenus qui vont faire des vues dans votre secteur, en tant que marque, vous avez une légitimité et une potentialité aussi pour vous accaparer de ce secteur.
T'as des exemples concrets de marques ou de boîtes où on se dirait, mais honnêtement, je vois pas du tout cette boîte-là
Bien sûr. Alors,
sur YouTube et qui
on va
cartonne.
peut-être prendre un exemple assez ancien, c'était il y a quelques années. Je crois qu'ils ont commencé en 2012, c'est la marque Gillette.
D'accord.
Alors Gillette, ils font quoi? Ils font des rasoirs. Bon,
Ouais.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tutoriels de rasoirs.
Comment se
Sauf que,
raser, quoi?
comment se raser? Bon. En principe,
Les gens savent faire.
voilà, les gens savent faire. Peut-être que ça vaut le coup de faire une vidéo, mais vous en faites une, peut-être deux, trois. Bon, eux, ils en ont fait 150.
Ah ouais.
Ils ont en fait créé un besoin en montrant que bah, vous pouviez avoir des styles différents, des moustaches, des barbes,
Ouais, c'est
et
vrai.
que pour chaque style, eh bien, il y avait tout un tas, apparemment, hein, je n'ai pas beaucoup de curiosité comme tu peux le voir, il y a tout un tas de choses à avoir. Et en fait, comme ils l'ont fait assez tôt, ils ont carrément. Alors, ils ont créé le besoin, et ensuite, ils ont planté un drapeau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous tapez comment se raser, how to shave, entretenir en anglais, quand vous tapez n'importe quel mot-clé autour de cette thématique, vous tombez
C'est eux qui
sur leurs
ressortent.
vidéos, et on parle de vidéos qui ont fait entre 50 000 et 1 million de vues chacune.
Ça, c'est hyper intéressant parce que ça m'amène à un deuxième point. On en avait parlé en off quand on s'était rencontré la première fois où tu me disais, mais en fait, YouTube, c'est vraiment en fait un moteur de recherche. Il faut jamais oublier ça.
Complètement.
Et donc, alors, c'est pas vraiment une question, mais si je me trompe pas, la recherche en fait sur YouTube, c'est absolument clé. Et donc, à partir du moment, pour répondre à la première question sur la création d'une chaîne YouTube ou pas, à partir du moment où des gens tapent, font une recherche sur un secteur, un territoire de marque qui vous concerne, bah, en gros, ça fait sens d'avoir une chaîne YouTube, quoi.
Bien sûr. Bah, il faut toujours partir des chiffres, hein. YouTube, c'est le deuxième plus gros site le plus consommé au monde. En termes de recherche, c'est 4 milliards de requêtes qui sont tapées par jour. Grosso modo, si vous ne traitez pas le sujet, d'autres personnes vont le faire pour vous.
Ouais, c'est ça.
Très souvent des youtubeurs. Des youtubeurs plus ou moins professionnels. Quand ils ne sont pas très pros, bon, il y a aussi une question de contrôle de l'image de marque qui peut venir. Les secteurs où il n'y a vraiment aucun potentiel en termes de SEO, donc c'est le terme qu'on emploie hein, pour le
Ouais,
potentiel
de search,
de
donc de
search.
recherche.
Bien sûr, il y a des secteurs qui sont moins intéressants que d'autres, mais vous avez forcément trois, quatre questions fondamentales que vous devez dominer pour pouvoir eh bien, prendre la place et ne pas laisser vos concurrents ou des amateurs dominer le territoire.
Et alors, tout à l'heure, tu me parlais donc de Gillette et de ses 150 vidéos. Une question assez récurrente des personnes à qui j'ai parlé quand je leur ai dit que j'allais faire un podcast sur YouTube me disait, d'accord, ok, il faut créer sa chaîne YouTube, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait? Combien de vidéos il faut mettre? Est-ce que ça sert à quelque chose si jamais on n'a pas le temps de créer tant de contenu ça? Est-ce que toi, tu as un peu des grandes guidelines, des grands principes que tu pourrais nous donner, notamment voilà, au niveau du nombre de vidéos à publier par semaine, par mois, peut-être, quand, mettons, on est une marque. Mettons, si je prends un exemple concret, je crée la chaîne du gratin. Alors moi, il se trouve que j'ai déjà mes podcasts, donc c'est peut-être pas si compliqué que ça. Mais est-ce que tu penses qu'une fois par semaine, c'est suffisant? Est-ce qu'il faudrait faire plus? Quelle est un peu voilà, ton idée là-dessus?
Alors, c'est une bonne question. Je vais répondre. Pour commencer, je vais peut-être partager une grille de lecture qui pourra simplifier la réflexion. C'est la matrice des 3 H. Donc, les 3 H, ce sont trois typologies de contenu qui ont leur place sur une chaîne YouTube. En bas de la pyramide, donc vous imaginez une belle pyramide. Les fondations, en fait, ça va être le contenu help, le
D'accord.
contenu qui va répondre à une question, du coup. Donc pensez aux tutoriels, aux vidéos de présentation des produits, aux tests, etc. C'est vraiment les fondations de votre stratégie de contenu. Pourquoi c'est important? Bah, le search, on l'a vu,
Ouais.
ce sont des vidéos qui vont attirer des audiences qui ne connaissent pas et qui vont agir comme la porte d'entrée, en fait,
D'accord.
vers le reste de votre chaîne, vers votre marque, aujourd'hui et potentiellement pour toujours, enfin, en tout cas pour la durée de vie de YouTube. Petite parenthèse, quand vous publiez un post sur Instagram, Twitter, Facebook, ça a une durée de vie de entre 10 heures et 2 jours, pour être
Oui,
gentil.
pas de
Pour
gentil.
être gentil, sur YouTube, vos vidéos vont faire des vues de manière régulière,
Ouais.
prévisible et pilotable pendant des années et des années et des années. Donc, si votre plan, c'est d'abord d'avoir ce contenu help, donc répondre vraiment aux questions que les gens se posent pour être découvert, là, il n'y a pas vraiment de bonne fréquence de diffusion. Il faut avoir le contenu, il faut avoir le bon contenu. Le publier, et ensuite, vous aurez ce catalogue qui, si possible, devrait grandir petit à petit. Mais avoir les vidéos, c'est essentiel. Tout comme vous devez soigner bien la vitrine de votre magasin en brick and mortar. Ici, vous devez avoir une belle vitrine sur YouTube, et ça commence par avoir un squelette de chaîne. Bah, ça commence avec un avatar, une bannière et une ou deux vidéos, en fait. Par contre, si votre objectif est de développer une audience, donc de vous inscrire dans le temps long, et peut-être même de gagner en posture, de renouveler votre façon de communiquer, de bénéficier du potentiel incroyable de YouTube en termes d'engagement et de fidélisation, alors cet objectif de fidélisation, il passe effectivement par la publication régulière de contenu.
D'accord.
Donc ici, on est au milieu de la pyramide. Après le help, il y a le hub. Donc le hub, c'est vraiment le contenu qui va donner envie aux gens de vous suivre. Donc là, vous pourrez...
De s'abonner plus.
De s'abonner,
d'accord.
Exactement. Là, en termes d'exemple, on peut citer... en France, il y a un exemple qui est vraiment excellent. C'est du côté des cosmétiques, la chaîne de Maybelline Paris.
D'accord.
A fait pendant des années un format. Je ne sais pas si tu le connais, t'as pas du gloss.
Non, je me maquille pas énormément, mais je vois ce que c'est Maybelline, ouais.
Voilà. Donc, t'as pas du gloss présenté par Enjoy Phoenix, la youtubeuse qui a été lancée en parallèle avec elle. Là, c'est un format qui a duré des années. Ils ont fait quelque chose comme 2 à 3 vidéos par mois.
D'accord.
Et ça a très bien pris. Du coup, pour répondre simplement à ta question, si le but c'est de fidéliser, un grand minimum sera d'une vidéo par semaine.
D'accord. Donc la base, comme tu disais, c'est avoir une chaîne YouTube. Si jamais en fait il y a du search, donc de la recherche sur des mots-clés, sur des thématiques qui concernent votre marque. Ensuite, si jamais vous allez un petit peu plus haut en termes de dans la pyramide, c'est vraiment créer une audience fidèle et c'est donc ça. Créer de l'abonnement. Et donc ça, pour ça, il faut quand même créer de la régularité.
C'est ça.
Ok, super clair. Écoute, et donc toi, tu dirais pour quelqu'un qui a finalement des moyens assez limités, une fois par semaine, c'est déjà quand même beaucoup de contenu, quand
c'est
tu penses. Mais c'est suffisant, a priori.
Alors,
on peut toujours faire plus, quoi.
On peut toujours faire plus et on peut aussi faire moins.
Oui.
Car dans toute stratégie de contenu de diffusion, il n'y a pas une seule recette, un miracle. Il faut s'adapter toujours à ses contraintes et à ses enjeux. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il existe des chaînes qui vont grandir en faisant moins de vidéos. Mais... elle compense cette plus faible fréquence de diffusion par une qualité de contenu qui est
exceptionnelle
ou en tout cas bien supérieure à ce que font leurs concurrents. Dans tout ça, en fait, il faut juste garder quel est le but de YouTube. YouTube a pour but de garder l'internaute le plus longtemps possible sur la plateforme et d'avoir le plus possible de bonnes recommandations. L'internaute trouve son contenu via le contenu help en recherche, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a une deuxième ou une troisième vidéo à voir qui va le faire rester sur YouTube, que ce soit d'ailleurs sur la chaîne ou sur d'autres chaînes. Pour YouTube, c'est lié, mais c'est pas une différence qui
du
est.
Coup,
en fait, oui, la question, c'est si vous avez peu de vidéos, mais qu'elles ont toutes une très forte capacité à générer de longues sessions de visionnage, à faire passer les gens de la vidéo 1 à la 2, puis de la 2 à 3, et peut-être qu'ensuite, à partir de la 3, vous avez, je sais pas moi, un partenariat avec un média ou une marque, et les gens iront continuer leur visionnage de l'autre côté, c'est très bien aussi.
D'accord.
Ça, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, pour être tout à fait complet, sans rentrer trop dans la technique, il faut savoir aussi que si vous diffusez moins, comme pour tous les autres réseaux sociaux, il y a des méthodes qui permettent de diffuser de manière plus efficace via des outils payants, paid. Parce que vous savez exactement qui a vu quelle vidéo,
pour faire du retargeting,
du ciblage et toutes ces belles choses.
Mais pour toi, il est possible aujourd'hui, même en faisant du non payant, donc en purement organique, de créer des contenus sans investir non plus des millions d'euros qui sont vraiment fortement diffusés.
Bien sûr.
T'as des exemples concrets de boîtes ou de même d'influenceurs, des influenceurs, je sais que ça existe pour le coup, mais encore aujourd'hui, parce que moi c'est un peu ça ma crainte parfois quand les gens me parlent de YouTube, je me dis ok, c'est quand même maintenant très très concurrentiel, il y a énormément de monde dessus, il y a énormément de contenu, donc comment est-ce que t'arrives à émerger quoi?
Alors c'est une très bonne question et en fait il faut aussi la rattacher à une question un peu plus strate sur pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'aller sur YouTube. À cette question, il y a une question de légitimité et de message. Si vous vous posez la question d'aller sur YouTube, c'est parce que vous estimez que vous avez quelque chose à dire qui va intéresser les gens. D'accord ? Dans une optique.
Bon après, il y a plein de gens qui veulent aller sur YouTube juste parce qu'il faut être sur YouTube.
Alors,
je pense que
là,
ça,
c'est pas la bonne question
stratégie
à se poser. D'abord, c'est qu'est-ce qui pourrait intéresser l'audience ?
Ouais.
Toujours être user-centrique. Bon.
Non, mais c'est important de le rappeler.
C'est important de le rappeler. Concrètement, derrière, il y a cette idée d'avoir une niche, en fait. Si vous avez une niche, que vous avez un produit ou un service extrêmement spécialisé, peut-être que vous aurez peu de vues en absolu, mais.
de très qualitatif.
En, voilà, de fil en aiguille, vous n'avez pas besoin, vous ne visez pas 1 million de vues par semaine. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, les marques qui ont des niches très identifiées, avec peut-être même un pool d'utilisateurs ou une communauté qui pourrait s'engager, ont tendance à grandir assez facilement. Alors là, j'ai un exemple qui est assez random, assez aléatoire, mais c'est un exemple que j'ai vu récemment. C'est la chaîne de Mondial Tissus.
D'accord.
Bon,
ouais, je vois ce que c'est.
Ah, tu vois,
qui vend des tissus, parce que j'en achète parfois pour des shootings photos.
Donc dans leur site, ouais. Alors évidemment, j'ai pas accès à leur chaîne, c'est pas un client, mais je ne pense pas qu'ils fassent de publicité sur leur chaîne, en tout cas pas beaucoup. Donc l'ensemble de leur visibilité organique a été développée par de très belles vidéos qui répondent eh bien, aux attentes de l'utilisateur, qui répondent au code de la plateforme en termes de production. Ça, on pourra en parler, mais il y a des choses à respecter pour faire une bonne vidéo sur YouTube. Et du coup, bon, bah, ces vidéos, elles font pas 100 000 vues en une semaine, mais elles font 500 vues, puis 1 000, puis 2 000, et un jour, elles feront 10 000, 50 000, 100 000 vues au fur et à mesure du temps qui passe.
Écoute, ça donne espoir en tout cas. Bah, justement, tu m'as lancé une belle perche, une question aussi qui a été énormément posée par les auditeurs. C'est ok, super, moi je veux bien avoir ma chaîne YouTube, mais je suis pas non plus Bill Gates, j'ai pas les moyens d'avoir un super matos, etc. Concrètement, si je veux pour ma marque créer une chaîne YouTube ou je veux créer ma marque personnelle et je veux créer ma chaîne perso, qu'est-ce qu'il me faut comme matériel et quelles sont les exigences en termes de production pour avoir un contenu qualitatif ?
Alors, c'est une très bonne question puisque c'est aussi une question qu'on adresse très, très régulièrement chez TubeBridge. Ma réponse, ça va être d'avoir un contenu qui intéresse et d'avoir la bonne tonalité, le fond et la forme. Bon, du coup, je n'ai pas répondu à ta question. Mais
si,
dans
quand
tout
même.
Ça,
tu me fais comprendre que la technique n'est pas si importante que ça.
En fait, ce n'est pas vraiment une question de technique. Alors, je vais donner la réponse, mais in fine, tout ce qui importe, c'est avoir le contenu qui va être intéressant et ensuite d'avoir une forme d'authenticité.
Et donc ça aussi, sur YouTube, c'est important.
C'est hyper important. Concrètement, beaucoup d'annonceurs sont un peu biaisés par le fait qu'ils ont l'habitude de travailler dans un mindset publicitaire.
Exactement, ouais.
Alors, une vidéo publicitaire, elle va toucher des millions et des millions de personnes. Elle a un potentiel énorme sur l'image de marque. Ok, ça coûte de l'argent, très bien. Une vidéo sur YouTube, elle n'est pas vue au cinéma. Hein. Elle n'est pas vue en prime time. Hein. Elle est vue sur mobile, dans 80% des cas aujourd'hui. Elle est vue sur mobile et surtout, elle touche une audience qui choisit de voir la publicité. Pardon, qui choisit de voir la publicité d'ailleurs ou la vidéo. Dans les deux cas, hein, YouTube favorise une vue active et une vue choisie et non pas une vue subie. Du coup, tant que les gens ont cliqué sur la vidéo, c'est bien parce que le sujet va les intéresser, qu'ils ont une attente, que ce soit découvrir un produit, apprendre à faire quelque chose, trouver des idées d'inspiration pour, je sais pas moi, décorer ma salle de bain, ou je sais pas moi, apprendre à comment faire une bonne demande de demande en mariage, par exemple.
Une très bonne idée.
Donc cette notion d'authenticité, elle est hyper importante parce que si vous montrez que vous faites des vidéos, mais que derrière vous avez quelque chose à vendre, que la vidéo est un prétexte en réalité pour parler de vous, bon bah très vite les gens vont s'en rendre compte et c'est pas hyper intéressant.
Et à l'inverse, faire des pubs entre guillemets et les poster sur YouTube, alors si c'est du paid media, que tu le payes, ça peut valoir le coup.
C'est très bien.
Voilà, mais par contre, faut pas s'attendre en organique à ce que ça soit exceptionnellement vu, sauf si vraiment la création est tellement sublime ou drôle ou quelque chose comme ça, que là ça peut être viral.
Voilà, exactement. Si vous vous appelez Nike ou Auchan, je crois qu'il a fait une très très belle campagne il y a quelques mois avec une vidéo sur les tomates.
D'accord,
qui a été très virale.
Je le mettrai dans les notes.
Voilà, si vous avez des publicités exceptionnelles, très bien, mais ce n'est pas une stratégie. La viralité n'est pas une stratégie.
La viralité n'est pas une stratégie.
Ah ben non. Dans la viralité, il y a une notion qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas piloter.
Ça arrive par hasard.
Voilà, c'est le partage social. Bon, on pourra en parler dans un autre podcast, mais les vidéos qu'on estime virales en matière publicitaire ne sont quasiment jamais virales.
D'accord.
Derrière, il y a toute une ingénierie de partage social et de tests en amont qui font que bon, bah, il y a 300 000 vues ou 3 millions de vues qui sont achetées rapidement pour ensuite générer une dynamique politique avec des RP, avec pas mal de choses.
Hyper intéressant.
mais ça, c'est un autre sujet. Pour répondre à ta question, effectivement, une publicité n'a pas vocation à faire des vues en naturel sur une chaîne YouTube. Alors attention, hein, le paid, on en fait dans l'agence, ça c'est une raison d'être. Mais la question que j'encourage tes auditeurs du coup à se poser, c'est quel est le but de ma vidéo ? Est-ce que c'est une vidéo promotionnelle publicitaire qui va toucher une très large audience en dehors du potentiel naturel de mon cœur de cible ? Ou est-ce que je fais une vidéo pour le search ? Ou alors, est-ce que c'est une vidéo qui va, avoir pour but de faire cliquer sur une fiche produit. Mm-hmm. Est-ce que c'est une vidéo qui va non pas avoir pour but de faire cliquer sur une fiche produit, mais sur le bouton d'abonnement? Car une vidéo ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas avoir un impact de branding coup, incroyable, faire mal, faire vendre, et fidéliser, et être trouvé en recherche. Il y a peut-être quelques vidéos qui, de temps en temps, parviennent à cumuler toutes ces qualités. Mais vous n'en faites pas une stratégie. Mm-hmm. Donc posez-vous la question, quelle est l'intention et l'objectif de chacune des vidéos? Donc help, c'est fondation. Un contenu hub pour fidéliser et intéresser l'audience. Mm. Et au-dessus, vous avez le contenu hero hein, dans la terminologie, qui est le contenu publicitaire, qui va vous permettre, eh bien, vous mettez un peu de budget, et là, tout d'un coup, vous avez 1 million de personnes qui débarquent sur votre chaîne, hein, et là, ils auront du contenu à se mettre sous la dent. Mm. Pensez aussi quelles sont les synergies que vous pouvez créer entre un contenu publicitaire et le reste de la chaîne. Hein.
Et... attirer avec la publicité et ensuite fidéliser avec ton fameux hub, donc c'est-à-dire des contenus récurrents qui sont de qualité.
Et c'est là où très souvent on constate qu'il y a des limites plus organisationnelles
ouais.
ou de mindset même dans les entreprises. Bon, bah, dès lors que vous avez des services différents qui gèrent l'achat média et le marketing ou la création de contenu, c'est compliqué de se parler.
Mais justement, je voulais t'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont auditeurs du podcast, qui travaillent dans des directions marketing ou qui travaillent en agence. Et c'est vrai que la difficulté, je trouve, dans cette création de contenu, alors sur YouTube, mais même sur Instagram, etc., c'est que il y a maintenant une nécessité d'une forte création de contenu. Donc, c'est beaucoup de travail. Et en général, on n'y affecte pas souvent les ressources nécessaires. Toi, de ton expérience, en fait, quelles sont les équipes nécessaires au sein d'une organisation? Donc, ça peut être une marque B2C ou une marque B2B pour être à peu près sûr de, enfin, être capable de faire quand même un contenu de qualité récurrent qui du coup est la vocation de faire connaître davantage la marque.
C'est une bonne question. Alors, la réponse va énormément dépendre effectivement de l'ampleur et de la taille de l'entreprise.
Bien sûr, je ne parle pas d'une boîte de 1000 salariés. Je vais donner la base, réponse. On va dire la basique, base de la base.
Pour moi, il faut 3 personnes. Il faut une personne qui a une vision stratégique sur pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce qu'on veut dire. Mm-hmm. Bon, en principe, hein, il y a quelqu'un dans le marketing.
On espère quand même qu'il y en ait un.
Et sinon, vous pouvez vous faire accompagner. Ouais. Une personne pour la captation de la vidéo.
Ouais. Réalisateur, quoi.
Un réalisateur. Et éventuellement, alors là, vraiment, si vous avez des moyens exceptionnels, une personne dédiée pour le montage, et vous avez un réal
et un monteur,
en réalité, très souvent, vous pouvez avoir un réal monteur.
Bien sûr.
Pour du face caméra, du tutoriel, des vidéos sur une table, et ce sont le type de vidéos qui vont correspondre à 50% des marques en B2C. Hein. En réalité, ouais, une bonne personne pour la captation et le montage, hein, c'est faire le job. Mmh. Et du coup, je rattache avec ta question précédente en termes de matos,
ouais.
D'un point de vue technique. En réalité,
un
appareil photo de bonne qualité, un trépied, éventuellement quelques lampes pour s'assurer que la lumière soit constante, une bonne prise de son.
Toujours très important le son.
C'est hyper important. Mais ouais. Après, bien sûr, attention, je dis pas qu'il faut faire des vidéos systématiquement avec un iPhone 7 et un stabilisateur, mais on peut commencer comme ça. Et très souvent, si c'est bien fait et que le montage fait le job, car la qualité d'une vidéo dépend énormément de la post-production et pas tant de la captation que ça, sur un téléphone mobile, même sur desktop, on aura un rendu très qualitatif.
Hyper intéressant. Par rapport au contenu encore et à la production, est-ce que tu as des recommandations pour quelqu'un qui se lancerait, qui voudrait créer soit sa série, soit ses premières vidéos? Tu vois, est-ce qu'il faut, un générique au début, sur la durée aussi, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Mais en gros, quelles sont un peu les best practices en termes de vraiment création de contenu par vidéo?
Alors, c'est une bonne question. On va commencer par le commencement. On va parler de titre et de vignette.
Ah oui.
Attention. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une vidéo sur YouTube, elle est choisie. Les gens décident de cliquer dessus. Et sur YouTube, hein, tu le sais, il y a des heures et des heures, enfin des millions d'heures de contenu qui sont disponibles. Je crois que le chiffre, c'est 500 heures de contenu qui est mis en ligne chaque minute.
C'est incroyable.
Donc, en l'espace de 10 vies, on n'aura jamais le temps de voir un millième de ce qui est mis sur YouTube. Donc, en tant que chaîne, marque, média, association, peu importe, vous êtes dans une situation hyper concurrentielle. Les éléments qui vont donner envie aux gens de cliquer sur votre vidéo, c'est quoi? Bon, bah, ça va être la vignette, donc la petite image qui s'affiche en aperçu.
C'est ça.
En recherche,
c'est la page de garde.
C'est la page de garde de la vidéo.
Ouais.
Et son titre. Quel est le titre de la vidéo? Bon, là, le premier conseil très concret qu'on va donner, c'est essayer de penser au titre de votre vidéo avant de tourner la vidéo. Si vous le faites dans l'autre sens, c'est qu'au dernier moment, la personne qui met en ligne se dit « Tiens, en fait, c'était quoi le titre de la vidéo ?»
Ça marche pas.
Potentiellement, vous avez un titre pas intéressant et du coup, une vidéo peut-être très intéressante. Mais la meilleure vidéo au monde, si elle n'est pas cliquée, ne sera jamais vue. Donc pensez au titre. Le titre, c'est fondamental. Vous pouvez avoir des variations de 100, 200, 300, 400% en changeant un titre.
Ah oui.
Pareil pour une vignette. Vous pouvez faire de l'A/B testing. Vous pouvez, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, et j'insiste dessus, que vous avez une marque qui a un catalogue de vidéos, très souvent, toutes les marques ont une étagère vidéo, on appelle ça chez Tubridge. Vous avez entre 100 et 800 vidéos qui datent depuis des années et des années.
Mm-hmm.
Bon, dans cet ensemble de vidéos, vous avez sûrement peut-être le tiers, voire la moitié des vidéos qui ont un potentiel qui est sous-exploité. Posez-vous la question, est-ce qu'en optimisant la vignette et le titre...
Je peux les mettre sur YouTube quoi, et en faire quelque chose
Elles sont déjà sur YouTube, mais est-ce que vous pourriez les améliorer? Et la réponse est oui, très clairement, très très souvent, en optimisant a posteriori des vieux contenus, et je parle vraiment de contenus de 2012, 2013, 2014, vous pouvez obtenir en flat à court terme, plus 20, plus 30, plus 50% en audience naturelle, simplement parce que vous avez remis des bons mots-clés dans le titre, vous avez fait une vignette qui est un peu plus esthétique, un peu plus voyante, avec une profondeur de champ, un contraste. Donc le titre, très important. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsque votre cible lira le titre, elle aura envie de cliquer?
Ouais, d'accord.
Bon, très bien. Pour la vignette, quelques conseils. Il faut que la vignette soit reconnaissable et qu'elle soit attribuable à votre marque. Donc, la notion de branding est hyper importante. Posez-vous la question, lorsque votre vidéo apparaît sur la page d'accueil de YouTube, est-ce que les gens reconnaissent votre marque? Évidemment, c'est hyper important. Et également, la vignette doit bien sûr donner envie de cliquer sur le contenu. Donc, on doit voir de quoi il s'agit. Il faut que l'image soit de qualité. Donc, si
d'ailleurs,
possible,
j'ai vu que très souvent, le titre est noté aussi sur la vignette.
Aussi. De façon à tout de suite capturer l'attention, puisque le cerveau humain réagit davantage au visuel qu'au texte. Donc si vous avez deux ou trois mots-clés très impactants sur une vignette, ça peut être une bonne façon de signaler, de véhiculer l'information. En termes de recours, pour la vignette, c'est comme pour le titre. Pensez-y durant le tournage ou avant.
Ou avant, ouais.
Prenez une photo, tout simplement. Une belle photo de votre produit ou de la personne qui va s'exprimer, avec si possible des contrastes, de la profondeur de champ, vraiment... de façon à sublimer et à bien mettre en avant votre contenu, quel qu'il soit.
Hyper intéressant. Par rapport au reste de la vidéo, du coup, si on avance un tout petit peu.
Alors, c'est une bonne question. Il faut avoir en tête, comme j'évoquais précédemment, le but de YouTube. YouTube aime les vidéos qui sont longues parce qu'elles ont tendance à retenir, à maximiser l'attention et le temps passé sur la plateforme. Concrètement, si vous imaginez faire des vidéos de moins de 2 à 3 minutes, c'est questionnable.
D'accord.
En dessous de 2 minutes, c'est même un no-go.
Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que c'est pour le coup complètement
c'est
contre les
marques,
idées reçues.
80% des marques font ça parce que c'est un ADN publicitaire à base qu'elles ont. Non, sur YouTube, ça commence à être hyper intéressant si vous avez des vidéos qui font entre 5 et 10 minutes.
D'accord.
La plupart des chaînes qui grandissent ont des vidéos, ont des formats du coup de vidéos entre 5 et 10 minutes. Après, bien sûr, si votre vidéo fait 3 minutes 30, qu'elle est compétitive par rapport à sa niche, qu'elle répond à une question, qu'elle est intéressante et que les gens ont envie d'aller jusqu'au bout, bah c'est très bien, 3 minutes, bien 3 minutes 30.
Super. Et tout ce qui est fin de la vidéo, il y a quelque chose à prévoir ou tu t'arrêtes juste quand tu t'arrêtes?
Ah bah non, on est sur YouTube, donc on est en digital. Alors dans YouTube, il y a aussi la notion de communauté. YouTube, pour une marque, c'est la possibilité de passer un cap, de passer un palier dans les interactions et dans l'authenticité. Alors... réel, perçu, peu importe, on pourra en débattre, avec la communauté. Et sur une vidéo, eh bien, on peut passer à l'action. Vous pouvez poser des questions pour que les gens vous répondent en commentaire. Vous pouvez faire des sondages, il y a des petites fiches et prévoir différentes possibilités. Donc là, il y a plein de façons d'utiliser, proposer des sujets pour la prochaine vidéo, faire du SAV, pas mal de possibilités. Et bien sûr, encourager les gens à passer à l'action sur une vidéo et ou sur l'abonnement et ou sur une fiche produit.
Ouais. Donc abonnez-vous ou allez cliquer là ou un truc comme ça. Et donc ça, tu le notes sur la fin de la vidéo, quoi.
Alors, à la fin de la vidéo, effectivement, dans une fonctionnalité qu'on appelle l'écran de fin, si un auditeur a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, ça s'appelle l'écran de fin. C'est durant les 20 dernières secondes et ce sont des boutons cliquables. Vous pouvez voir, toutes les chaînes YouTube les utilisent, la chaîne du Monde, Tarté les utilisent, très très bien. En fait, ces écrans de fin-là, c'est une sorte de quatrième de couverture, mais interactive.
Ouais.
C'est-à-dire que le but, c'est pas d'arrêter ici. C'est de montrer qu'il y a une playlist pertinente, une partie de la vidéo ou une interview associée. Exemple typique, je ne sais pas, moi, vous présentez une machine à café, un produit voilà, très classique, un produit brun de la cuisine. C'est un format présentation de produit, plutôt haut de funnel du coup. Peut-être que vous avez un deuxième format, plus hub, qui va être sur quelle recette faire avec telle machine à café ou tel produit ménager.
Comment bien réussir son café, les bons grains
exactement.
De café, etc.
Là, vous avez deux formats complémentaires. complémentaire d'un point de vue YouTube, mais aussi complémentaire pour votre strat marketing, en termes de funnel. Mais tout ça doit s'articuler dans la durée de manière cohérente.
C'est sûr. Top. Écoute, merci en tout cas d'être bien rentré dans le détail. On va continuer par parler, si ça te va, de KPIs, donc les fameux chiffres qu'on a envie de
c'est
suivre.
C'est mon préféré, les KPIs. Bah oui.
Pourtant, tu as l'air très sympa comme ça.
Ah, mais les deux ne sont pas inconciliables.
Voilà. Non, mais souvent, en fait, quand on lance un projet, c'est vrai qu'il faut du suivi, évidemment. Mm-hmm. Et pour ça, il faut des chiffres. Il faut monitorer en fait, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas pour savoir où appuyer ou quoi couper ou quoi améliorer. Tu parlais donc d'AB testing, donc du fait de tester avant de lancer quelque chose ou en lançant quelque chose, par exemple plusieurs options pour savoir laquelle fonctionne le mieux. Mais au-delà de ça, c'est vrai que souvent les gens, quand ils se lancent dans un petit projet, oublient que quand tu te fixes des objectifs, il faut quand même savoir ce que tu vas monitorer. Quels sont pour toi les KPIs basiques qu'il faut suivre quand on lance sa chaîne YouTube?
Alors, très bonne question. Je vais rattacher avec ce que j'évoquais précédemment sur le temps passé.
Juste un petit aparté, oui. Excuse-moi, KPIs, Key Performance Indicator, donc oui. Des indicateurs tout simplement chiffrés qui te permettent tout de monitorer voilà, tes performances.
Dès lors qu'on a dit que ce qui importait pour une chaîne, c'était de maximiser le temps passé sur les vidéos et du coup sur la chaîne, on comprend bien que le KPI vu, qui nous vient en tête instinctivement, oui. Il n'est pas forcément le plus pertinent. Il est important bien sûr, parce qu'il peut tracer une évolution. Si on fait plus de vues, a priori, c'est plutôt positif. Mais en soi, la vue, elle est comptabilisée dès que les personnes cliquent sur la vidéo.
C'est même une seconde et c'est considéré comme vue, d'accord.
Entre un temps passé de, prenons un cas réaliste, vous avez deux chaînes, une chaîne qui fait des vues à 30 secondes et une deuxième chaîne qui fait peut-être un tout petit peu moins de vues, mais un temps passé de 5 minutes. In fine, il faut se demander quel est l'impact, qu'est-ce qu'on cherche réellement en tant qu'annonceur, en tant que marque. Moi, ma réponse, c'est l'impact émotionnel. C'est la capacité à convaincre le cerveau et le cœur, en fait. Le temps passé, il se mesure en minutes et en heures de visionnage et pas simplement en vues. Là, vous avez les deux principaux KPI, les vues et les minutes de visionnage ou les heures de visionnage sur certaines chaînes. Le ratio qui détermine le rapport entre les deux, c'est la durée de vue moyenne.
Ouais.
D'accord ? Vous faites une vidéo, vous pouvez aller voir quelle est sa durée de vue moyenne. Est-ce qu'elle est à 25 secondes, à 2 minutes, 3 minutes? Et bien sûr, ça dépend de sa durée. Donc là, il y a des questions en amont à se poser également là-dessus. Un autre KPI très important à mesurer, peut-être un peu micro, mais il rejoint ce qu'on disait sur les vignettes, c'est le taux de clic par impression. Vous pouvez mesurer l'efficacité de vos titres et de vos vignettes via ce taux de clic par impression. Il est à 2%, il pourrait être largement optimisable. Les meilleures chaînes tournent autour de 7, 8, 9, 10%. Et un dernier KPI très classique, mais fondamental, ça va être l'abonnement, plus précisément la capacité de la chaîne à générer de l'abonnement, donc le taux d'abonnement. Pour 100 vues, combien avez-vous d'abonnés?
D'accord.
Alors, même pour des marques.
Tu le penses vraiment en dynamique, quoi, finalement. C'est pas la notion de stock qui compte, c'est combien d'abonnements les vidéos vont générer.
Oui, à la fois d'un point de vue photographique, là, si on prend le mois de juin, quel est votre taux d'abonnement, mais également votre évolution de mois en mois. Et je vais peut-être insister dessus parce que pour beaucoup de marques, on a beaucoup d'exemples dans la distribution. Je suis une grande chaîne de distribution française, Leroy Merlin pour ne pas citer. on fait des vidéos tutoriels, pourquoi est-ce que les gens s'abonneraient à notre chaîne? Bon, c'est une bonne question. Ouais. C'est pas l'objectif, l'abonnement sur une chaîne comme ça, qu'on ne fait que des tutoriels.
Ouais.
Pourtant, on se rend compte que le KPI taux d'abonnement, c'est un indicateur fondamental dans la qualité de la production. Le taux d'abonnement, il en dit énormément sur la perception que l'audience a de votre qualité de production. C'est un peu votre boussole éditoriale. Est-ce que ça plaît?
Ouais, c'est ça. Les gens ont envie de se faire spammer, quoi, concrètement, quand ils s'abonnent. Donc, il faut qu'ils aiment.
C'est ça. En termes de benchmark, si vous arrivez à avoir un taux à 1% en tant que marque, alors là, tout est possible pour vous. Mais ça va énormément varier de secteur en secteur. Donc là, c'est compliqué de répondre. Mais un bon benchmark serait entre 0,5 et 1%. Là, vous avez un bon taux d'abonnement.
Hyper intéressant, merci beaucoup en tout cas pour tous ces... Je sentais que les chiffres, c'était un truc qui allait te parler, tu vois. Top. Dernière question et ensuite je te laisse tranquille, c'est référencement. Tu m'en as parlé un petit peu à demi-mot quand tu me parlais du titre, mais une question qui est revenue assez souvent aussi des auditeurs, c'est est-ce qu'il faut mettre des hashtags? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il faut mettre des commentaires dans le descriptif justement de ta chaîne YouTube? Donc en gros, comment se faire référencer au mieux? Parce que beaucoup de gens justement postent sur YouTube pour être trouvés via le search, et donc comment faire pour émerger au mieux?
Alors, il y a quelques années, effectivement, je t'aurais répondu, bah oui, avoir un bon titre, la description, les tags, c'est hyper important,
Ouais.
concentrez-vous dessus, passez du temps à bien écrire ces éléments. Alors, aujourd'hui, il faut quand même bien les écrire, mais ça joue une partie assez infime dans la magie de YouTube. Alors, le titre, pardon, le titre reste très important, puisque
D'accord.
c'est la première chose que les gens voient d'une vidéo. La description et les tags jouent un rôle, mais qui est assez faible in fine. Il faut le faire. C'est vraiment les fondamentaux en fait de l'optimisation. Il faut bien le faire pour maximiser le potentiel de découverte des vidéos. Mais c'est pas ça en soi qui va faire le succès ou la réussite d'une chaîne. Ce qui fait le succès ou la réussite d'une chaîne, on l'a évoqué, hein, eh bien c'est
C'est
est-ce que le
contenu.
contenu plaît. Donc il faut bien le faire. Après effectivement les hashtags ils existent sur YouTube, mais ils ne sont pas utilisés de la même façon que sur d'autres plateformes. Les hashtags sont très utilisés quand les gens aiment le format, donc la série de vidéos, la playlist que vous avez.
D'accord.
Vous pouvez avoir un hashtag de format ou même de marque, le mettre dans votre description. Et en fait, YouTube va l'afficher juste au-dessus de vos titres,
D'accord.
de façon à avoir une sorte de surtitre affiché sous forme de hashtag. Les gens pourront cliquer dessus. Exemple, tutoriel Leroy Merlin, par exemple. Et ils verront, en cliquant sur ce hashtag, tous les tutoriels Leroy Merlin
D'accord.
associés.
Hyper intéressant. Mais donc en fait, ce que tu dis, c'est que au final, ce qui compte, c'est le contenu, c'est d'avoir un bon titre, une bonne vignette et juste de bonnes vidéos que les gens ont envie de voir, de partager, et c'est comme ça finalement que se fait finalement la notoriété de la chaîne YouTube.
Tout à fait, puisque quand l'audience aime le contenu, YouTube le remarque et c'est dans l'intérêt de YouTube de favoriser le bon contenu
Donc il va le
et
mettre en
il va
avant,
le mettre en
etc.
avant et du coup vous serez content et tout ira bien. En fait, il ne faut pas tant se concentrer sur ces aspects très micro, bien qu'il fallait les faire. On fait beaucoup d'optimisation au quotidien chez Turuit, c'est l'un de nos cœurs de métier. Mais en principe, si vous vous êtes posé les bonnes questions sur qu'est-ce que je souhaite dire, quelles sont les questions fondamentales que se pose mon audience, est-ce que j'ai des choses à raconter qui pourraient fidéliser et est-ce que j'ai un bon format de vidéo, tout le reste derrière coulera de source. Après, effectivement, utiliser les playlists, toutes ces petites fonctionnalités qu'on a évoquées comme les écrans de fin, avoir les bons CTA, les call to actions à la fin des vidéos, ça, c'est hyper important puisque quand vous faites passer les gens d'une vidéo à l'autre, eh bien, ça génère plus de watch time, hein,
Ouais, bien
le
sûr.
temps de visionnage, hein, c'est important.
Mais au final, tous ces petits hacks ne remplacent pas juste un très bon contenu que les gens ont envie de voir.
Un bon contenu, une bonne stratégie qui va avec.
Bien sûr.
Parce que ce sont deux choses qui doivent être alliées. Hein. Vous pouvez avoir un très bon contenu, mais pas de stratégie de diffusion en termes de programmation. De quoi vous parlez à quel moment? En particulier pour les marques, ici, il y a une question à se poser, c'est quelle synergie vous pouvez prévoir avec le paid. Ça, c'est encore un autre sujet, mais effectivement, le contenu et la strat qui va avec, c'est fondamental.
Top. Et pour terminer, si ça te va, je voulais te demander tout simplement quelques comptes à surveiller, sans faire de la pub
Bien sûr.
nécessairement, mais juste parce que toi, en tant que professionnel qu'expert, tu trouves que vraiment c'est des comptes bien fichus. Je veux bien que tu me donnes, si tu peux, des exemples à la fois B2B, parce que ça peut intéresser certains auditeurs, et qu'en fait, il y a des comptes B2B sur YouTube, B2C aussi, donc des marques plutôt, grand public, pour les consommateurs, et puis aussi peut-être quelques comptes d'influenceurs, tu vois, ça peut être intéressant pour des personnes qui aimeraient se lancer eux-mêmes.
Ok. Alors, je pourrais parler de ça pendant 2 heures, donc
Bah,
on va
trop
essayer
bien.
d'être assez synthétique. Commençons par B2B. J'en ai une en tête qui, je pense, ne sera pas très connue en France, mais pourtant, elle est hyper inspirante. Alors, c'est la chaîne d'un cabinet de conseil américain, une filiale de Gartner.
D'accord.
La chaîne s'appelle L2 Inc. L2 Inc.
D'accord. Je le mettrai dans les notes.
Super. Vous verrez un format qui s'appelle Winners and Losers in a Digital Age, où
OK.
le fondateur apporte un point de vue critique sur bien, les GAFA, l'évolution du
D'accord,
marché,
super
les
intéressant.
investissements. Et il doit faire entre. La dernière fois que j'avais vu, il devait faire entre 5 et 10 millions de vues par mois,
Ah ouais,
en naturel.
incroyable.
Bon, vous avez
Mais
bien.
là aussi, c'est quand même beaucoup lié, j'imagine, à la personnalité du fondateur qui a des trucs
Tout à
très
fait.
intéressants à dire
Et
et
c'est
qui.
écrit, c'est travaillé,
Ouais.
les vidéos sont objectivement hyper intéressantes, qu'on soit
D'accord.
d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Donc ça, c'est pour un exemple B2B. Alors en France, j'en ai pas trop. En France, j'en ai pas trop de similaires.
Bon, bah, messieurs, dames, il y a du boulot du coup,
Il y a du
hein.
boulot. Hein. Sur d'autres exemples, des chaînes qui, peut-être en dehors des marques, mais quand même qui disent des choses de la société et de la transformation des médias. La chaîne du Monde, bien sûr.
D'accord.
Le Monde se sont appropriés YouTube depuis 2-3 ans désormais, et ils ont eu une croissance phénoménale, hein, à tel point que moi je suis
Plus le monde sur YouTube
fasciné
que le.
par constater leur évolution dans les années à venir, puisque potentiellement ils sont en train de redéfinir
Complètement leur stratégie
tout un business
de.
model. Hein.
Ouais.
Car en plus on l'a pas évoqué, mais il y a des fonctionnalités de monétisation, hein, assez fortes
Bien
sur
sûr.
YouTube, comme tu t'en doutes. Bon, la chaîne d'Arte, évidemment. Alors, ces chaînes-là ont été beaucoup inspirées par une chaîne américaine qui s'appelle Vox.
D'accord. VOX. Ouais, j'en ai entendu parler.
Qui fait des vidéos absolument exceptionnelles en termes d'écriture, d'intérêt.
Et qui est aussi une chaîne média, c'est ça, hein?
Exactement. Alors, eux, ils doivent faire entre 10 et 30 millions de vues par mois. C'est vraiment une pépite, cette chaîne. Elle est génialissime. Alors après, oui, des conseils de chaînes à suivre du côté des marques.
Oui, si tu as quelques marques, bah, tu vois, tu me parlais de Leroy Merlin, je trouve que c'était intéressant quand même la stratégie de donc créer des tutos. J'imagine que c'est sur tout ce qui est do it yourself ou quelque chose comme ça. Mais si tu as d'autres exemples éventuellement, tout simplement bah, pour faire de la pub, mais juste pour que des auditeurs qui seraient soit dans la direction marketing,
tout,
soit
en
même,
bah,
voilà, et envie de voir secteur, qu'est-ce que c'est qu'une bonne chaîne, tu vois.
Alors, on va rester dans ce côté un petit peu pas très sexy, pas très glamour, comme ça, le message sera passé. Leroy Merlin, Lidl.
Okay.
Également.
Non, mais comme ça, ça montre aussi qu'on peut, tu vois, faire du bon contenu et avoir une bonne chaîne YouTube sans faire de la joaillerie.
La Banque Postale également. D'accord. Elle a une chaîne assez intéressante parce qu'elle est. C'est une chaîne qui performe plutôt bien.
D'accord.
Dans un secteur où, objectivement, c'est pas très facile, hein, ouais. Le secteur bancaire. Bon, après, ça dépend des secteurs.
Non, mais c'est déjà pas mal. Et pour terminer, ouais, juste au niveau des influenceurs,
ouais,
alors
YouTuber,
après, il y a tout ce qui est YouTuber, beauté, etc. Mais peut-être quelque chose d'un peu différent,
ouais,
tu vois.
Alors,
si
un truc différent que je voulais absolument citer, c'est la chaîne de Nerdwriter.
Alors, Nerdwriter, d'accord.
Comme Nerdwriter.
Un nerd, ouais.
Exactement.
Donc,
c'est un mec aux États-Unis qui est passionné d'écriture et de séries, de cinéma, de culture. Il va prendre un tableau, un tableau du début du XXe siècle. Il va en faire une vidéo de 15 minutes. Et en fait, le format, là, on peut dire que ce sont plutôt des essais vidéo. C'est pas vraiment... C'est pas le type de vidéo face caméra, etc. qu'on connaît.
D'accord.
C'est plutôt des essais. Donc très écrits, très recherchés. Et c'est fascinant. C'est une chaîne qui est très populaire chez les copywriters américains. Après, une petite chaîne française que j'aime beaucoup, mais bon, c'est lié à un hobby, à son intérêt que j'ai. C'est la chaîne des Revues du Monde. Une youtubeuse qui parle d'histoire et d'archéologie.
D'accord.
Et voilà, c'est très très différent des Norman et compagnie. Hein. C'est vraiment des vidéos qui sont creusées, intéressantes, divertissantes en même temps, et qui redéfinissent en fait pour moi la manière de démocratiser un savoir.
Mmh. Non, mais c'est intéressant de comprendre que justement, tu peux faire de la vidéo populaire avec... du divertissement, donc tu citais Norman, les Cypriens, etc. Donc moi j'ai eu sur le podcast par exemple Henri Tran du Rire Jaune. Oui. Ceci dit, je peux te dire
qu'il
bosse.
Il est super le Rire Jaune.
Il bosse, c'est quand même assez impressionnant de voir justement le processus de création de contenu. Mais au-delà de ça, en fait, quand tu me parles d'archéologie, on pourrait se dire a priori personne sur YouTube va regarder ça. Et je trouve ça assez génial de se dire que tu peux créer une chaîne.
Continuer, hein, on peut parler de philosophie, donc vous pouvez aller voir la chaîne In a Nutshell. Alors Kurzgesagt en allemand signifie in a nutshell, donc en bref, on pourrait dire. C'est une chaîne allemande mais anglophone, donc les vidéos sont en anglais. C'est l'une des plus grosses chaînes au monde. Et il parle de l'évolution de l'espèce humaine sur Terre.
Rien que ça.
C'est des vidéos qui... Alors, il a fait une vidéo making of sur le travail qui est nécessaire, mais on parle de vidéos qui font entre 200 et 400 heures de travail chacune. Donc c'est
incroyable.
Un énorme travail derrière. C'est animé, hein, on parle d'animation. C'est une excellente chaîne, elle a des millions d'abonnés, elle est très très connue. Non, il y en aurait beaucoup à citer.
Bon, top. Écoute, Ken, merci beaucoup pour ton temps. Si on veut te contacter, trouver TubeReach, je mettrai ça évidemment sur le site du gratin, dans les liens du podcast. Est-ce que toi, tu as des contacts perso qu'on peut évoquer ensemble?
Je peux donner mon adresse perso.
Tu fais ce que tu veux, ouais, tu donnes
on
ton adresse mail.
Je peux me contacter via mon adresse TubeReach, ken@tubereach.com. TubeReach. Ben,
parfait, je mettrai ça dans les notes du podcast. Merci
Super.
Pour ton temps.
Avec plaisir.
Je te dis à bientôt.
À bientôt.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.